Quelle joie! Et ce matin, j'ai un petit aveu à vous faire. Il y a un tas de situations dans ma vie où j'ai besoin de conseils. Et si vous avez déjà vécu ça, ou si vous le vivez peut-être actuellement, bah vous avez peut-être fait comme moi. On pose des questions un petit peu autour de nous, aux personnes que l'on considère de confiance, la famille, les amis. Des fois, on va voir des professionnels, on va aussi naviguer sur Internet. On va regarder la dernière vidéo YouTube pour nous montrer les 10 bonnes manières de procéder ou les 12 erreurs à éviter. Et en fin de compte, quand on a fait le tour, vous avez peut-être remarqué que certains conseils se contredisent à la fin. Et que certains sont parfois même inutiles parmi ces conseils. Et même parfois encore pire, certains conseils amènent un résultat qui est contraire à celui que l'on aurait voulu. Bref, comme je l'ai dit, j'ai besoin de conseils, mais comment faire le tri dans les conseils que je reçois? Quels conseils est-ce que je peux retenir? Quels conseils mettre en pratique? Alors, c'est vraiment le titre ce matin de mon message, « Quels conseils ?» Alors, souvent, ce qui va nous permettre de juger de la valeur d'un conseil, c'est la qualité de la personne qui va nous le donner. Et il y a plusieurs situations où on aurait tendance à écouter le conseil, même s'il est mauvais. Et ça peut nous amener du coup dans l'erreur, alors qu'on cherche une vraie solution. Alors, on va prendre quelques exemples pour illustrer un petit peu tout ça. Première question, est-ce que la majorité a toujours raison? Ne va pas trop vite, ça vient après. Alors j'ai entendu effectivement des noms. La majorité a-t-elle toujours raison? Pas sûr. On va voir un exemple. À l'époque où le roi d'Israël était le roi Akab. Et ce roi Akab, il a un projet, c'est celui d'attaquer une ville qui s'appelle Ramoth en Galaad. Et pour savoir si c'est un bon projet, il va demander à ses prophètes. Et vous savez combien il a des prophètes, Akab? Il en a 400. 400 prophètes. Et voici ce que les prophètes vont répondre. On est dans 2 Chroniques, au chapitre 18 et au verset 5. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ? Ou dois-je y renoncer ?» Ils répondent, « Monde-y, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Waouh, quelle joie pour Akab! Il reçoit la confirmation que tout va très bien se passer. Mais en fait, si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est une supercherie. Dieu n'a rien dit aux prophètes. En tout cas, à ces 400 prophètes-là. Ce sont eux-mêmes qui, d'un commun accord, ont décidé de tous répondre dans la même direction. On le sait parce que, en fait, la Bible nous donne une vision des coulisses. C'est au verset 12, un petit peu plus loin. « Le messager qui était allé chercher Michée lui dit « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien !» Mais Michée, il n'est pas comme les autres. Alors Michée répondit « L'Éternel est vivant, je communiquerai ce que mon Dieu dira. » La majorité a décidé que ça allait bien se passer pour Akab dans cette situation, dans cette bataille. Mais on lit aussi que Michée, lui, il ne veut pas faire de compromis. Et il veut communiquer les vraies paroles de l'Éternel. Mais il est tout seul. Et en tout cas, il va annoncer ce que Dieu lui dit vraiment. C'est au verset 16, Michée répondit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit « Ils n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Bref, Michée annonce à Akab que cette bataille, s'il continue à vouloir la mener, il va mourir et Israël n'aura plus de roi. Et quand on regarde notre propre situation, s'il y avait une telle majorité de personnes qui nous parlaient d'une même voix, 400 prophètes quand même. Eh bien, peut-être bien qu'on aurait eu tendance à répondre comme Akab, à pas tenir compte de celui qui avait dit différent et à suivre la majorité. Et Akab est effectivement parti au combat et il est effectivement mort, comme Michée l'avait annoncé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter la majorité. Mais écouter un conseil sur le seul motif que c'est la majorité qui l'a dit, ben ça peut être un piège pour nous. Alors faisons attention à ne pas considérer que la majorité a toujours raison. Car parfois la majorité peut être dans l'erreur, comme dans l'exemple que nous avons vu. Prenons notre exemple. Est-ce que nos amis ont toujours raison ? Vous avez lu mes notes ou quoi ? Prenons, j'entends l'expérience, ça peut arriver. Lisons un autre exemple, donc un passage de la Bible, on remonte un petit peu dans le temps et on voit ce qui s'est passé avec le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam. Il devient roi à la mort de son père. C'est comme ça que ça se passe dans la famille des rois. Et à ce moment-là, le peuple vient à la rencontre de Roboam pour lui demander une chose toute simple. S'il te plaît, allège les impôts parce qu'ils sont devenus trop lourds. Et Roboam, en tant que roi, va demander conseil. C'est plutôt une bonne démarche. Il demande conseil aux anciens, qui avaient déjà conseillé son père par le passé. Et puis il demande aussi à ses amis, ceux avec qui il a grandi, qui ont le même âge que lui. Les anciens vont lui conseiller d'accepter la demande d'alléger les impôts. Tandis que ses amis... bien voulu conseiller tout à fait le contraire. Augmente plutôt les impôts et devient plus dur encore. Est-ce que vous vous rappelez quel conseil Roboam a écouté ? On va le lire ensemble. On est dans 1 roi au chapitre 12, verset 13. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens. Et leur dit, d'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, mais je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. C'est pas très engageant. Roboam a écouté ses amis. Et les conséquences, eh bien, c'est qu'il a perdu la royauté sur quasiment toutes les tribus d'Israël, sauf une, la tribu de Juda dans laquelle il était né. Et ça a des conséquences encore aujourd'hui. Parce que en suivant ce mauvais conseil de ses amis, eh bien, le royaume s'est retrouvé divisé. Et cette division eh bien, perdure encore, en fait. Aujourd'hui, Israël n'a toujours pas retrouvé son unité des 12 tribus rassemblées. Et c'est pour ça d'ailleurs que les territoires actuels sont encore en conflit, parce qu'il y a encore cette division qui existe. Et là aussi, ça ne veut pas dire que nos amis ont forcément tort, hein, qu'on soit d'accord. On a aussi des amis qui peuvent avoir raison, heureusement. Mais si on écoute un conseil au seul motif que c'est un ami qui l'a donné, eh bien, ça peut nous conduire une fois de plus, peut-être dans une erreur. Attention au motif qui nous pousse à écouter un conseil ou un autre. On voit un troisième exemple. Est-ce que notre famille a toujours raison ? On va prendre un exemple aussi, dans la Bible. On remonte encore dans le temps. On arrive à l'époque de la Genèse. Abraham avait reçu la promesse de Dieu qu'il serait le père de nombreux peuples. Mais lorsque Dieu lui donne cette promesse, eh bien Abraham est âgé et il n'a pas d'enfant. Et l'attente, elle se fait longue. Et la femme d'Abraham, Sarah, qui s'appelle encore Sarai dans le passage que nous allons lire, va lui donner un conseil assez inattendu. On est dans Genèse au chapitre 16 et verset 2. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. ai des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Et à la suite de cet épisode, eh bien, la servante va avoir un fils qui s'appelle Ismaël. Alors que la promesse que Dieu avait faite, il l'avait faite pour la lignée qui serait issue aussi de Sarah, l'épouse d'Abraham. En fait, Abraham a écouté un conseil qui, en fin de compte, était un conseil de quelqu'un de désespéré, mais en même temps de quelqu'un qui l'aimait de tout son cœur. Mais aimer quelqu'un n'empêche pas que des fois, on peut se tromper dans le conseil que l'on donne. Et ça va conduire à bien des difficultés. Au travers de l'histoire, il suffit de lire finalement la Bible et on voit combien de fois les peuples issus d'Ismaël vont se retrouver en conflit contre Israël. Et ça a vraiment marqué l'histoire. Pas facile. Donc, notre famille, évidemment, encore une fois, peut avoir raison. Mais si on écoute un conseil de la famille que parce que c'est la famille qui le donne, on peut aussi s'exposer à l'erreur. Attention à cela. Prenons un quatrième exemple. Est-ce que un expert a toujours raison? Oui, non? Quand on est expert dans son domaine, on espère avoir toujours raison. Mais effectivement, il suffit de regarder un petit peu les séries américaines ou sur la justice et on voit que souvent il y a des batailles d'experts. Ça montre bien qu'ils ne sont pas tous d'accord. Bon, ça paraît un petit peu loin de nous parfois, cette justice. Mais dans la vie de tous les jours, quand on a besoin de conseils, on peut être amené à voir des professionnels. Et quand on compare ce qu'un professionnel dit et ce qu'un autre va dire, des fois on ne sait plus lequel croire. Pas facile. Et dans la Bible, il y a un épisode un petit peu comme ça. Ça se trouve à l'époque du roi David. Il a un fils qui s'appelle Absalom. Et Absalom, c'est pas le fils le plus facile de la famille. Il fait un coup d'état contre son père. Et il se retrouve dans une situation particulière, c'est que là, il a deux conseillers qui vont venir lui donner des conseils contraires l'un à l'autre. Le premier conseiller va lui proposer de pourchasser David tant qu'il est encore en fuite, tandis que l'autre, le deuxième, va lui dire « Attends un peu, on rassemble d'abord toute l'armée et ensuite on ira l'attaquer et on ira le traquer là où il se trouve. » Sauf que le deuxième conseiller, en fait, eh bien, il est de mèche avec David. Absalom va écouter les conseils du deuxième conseiller. Alors que ce deuxième conseiller donnait un conseil non pas pour l'avantage d'Absalom, celui qui avait demandé le conseil, mais plutôt pour l'avantage de son père. Les experts, parfois, peuvent être des gens très compétents, mais leurs intérêts ne sont pas toujours les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, à chaque fois. Non, bien sûr, heureusement, ils peuvent avoir raison aussi. Mais attention à la confiance que l'on donne aussi à un conseil qui peut être donné par un expert, comme pour les autres cas que nous avons vus avant. Ils sont humains, ils peuvent se tromper. J'ai un dernier exemple. Qu'est-ce qui nous manque? Ça vient juste après. Est-ce que l'on peut se fier à ce que nous ressentons. Finalement, est-ce qu'on peut se fier à notre propre conseil? Parce que des fois, on se donne des conseils à nous-mêmes. Hein. Ça ne vous arrive jamais? Je ne suis pas toujours très bon de conseils pour moi-même. Attention. Parfois, on fait les choses au feeling. C'est un petit peu ça. Selon la manière dont on ressent les choses. Et il y a plusieurs passages dans la Bible que l'on pourrait prendre qui parlent de ces auto-conseils. Il y en a un qui me semble marquant, c'est celui qu'on trouve au tout début de la Bible, dans Genèse au chapitre 3 et au verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Cette femme, c'est Ève, comme vous le savez. Et même si son feeling était bon, le fruit semble bon à manger, agréable à regarder, précieux pour l'intelligence. Eh bien, en fait, c'est qu'une impression. C'est que son sentiment par rapport à ce qu'elle voit de ce fruit. Et son sentiment personnel, son feeling, eh bien, l'a conduit à prendre la pire décision qu'elle pouvait prendre. En fait, pour rappel, elle a fait la seule chose que Dieu avait dit de ne pas faire. Et ça a entraîné pour Adam et Ève le fait d'avoir mangé le fruit, ce qu'on a appelé la chute, l'entrée du péché dans le monde. Et on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Donc attention. Ça ne veut pas dire que notre ressenti est forcément mauvais. Mais ne nous fions pas que à notre ressenti, à ces fameux conseils que l'on se donne à nous-mêmes. Car on peut se tromper nous-mêmes. Alors, on peut écouter la majorité. On peut écouter ses amis, on peut écouter sa famille, des experts, on peut même écouter notre feeling. Ils n'ont pas toujours tort. Heureusement. Mais ils n'ont pas non plus toujours raison. Et avec tout ça, quand on fait le bilan, on a quand même l'impression qu'on ne peut pas se fier à grand monde dans tout ça. Et que c'est trop difficile de savoir quel conseil écouter. Mais il y en a déjà qui ont gâché mon suspense. Et qui ont bien compris la suite. C'est qu'il y a une personne qui donne des conseils infaillibles. C'est Dieu, c'est Jésus. Et les conseils de Dieu, ils touchent tous les domaines. Vous le saviez? Certains, on va les trouver dans la Bible, dans sa parole, directement. Et puis des fois, on va aussi les avoir sous forme de révélations, des dons qui peuvent être donnés. Ce matin, on a été témoin de plusieurs dons qui ont été donnés dans ce sens-là. Il y a certains conseils qui sont universels. Et puis il y a certains conseils qui sont pour nous seuls aussi. Parce que on est tous différents, parce qu'on a un contexte différent, des vies différentes, des caractères différents. Et parfois, il y a des conseils qui sont pour nous tout seuls que l'on reçoit par révélation. Et pour les recevoir, ces révélations, bien, c'est aussi dans la proximité avec le Seigneur qu'il vient nous parler. Quand on vient à l'église, effectivement, dans les temps de prière, vous pouvez avoir un don qui vient et qui est pour vous. Dans les temps informels, la discussion avec un frère, une sœur, eh bien, Dieu peut vous parler d'une façon particulière. Parce que des fois, ce n'est pas vraiment ce frère ou cette sœur qui vient parler, c'est l'Esprit de Dieu qui vient parler au travers de lui ou d'elle. Et puis, il y a plein de choses dans la Bible. La parole de Dieu est tellement riche. La Bible ne va pas vous dire si vous avez le droit d'utiliser un iPhone ou pas. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque. Mais par contre, il y a un tas de choses qu'on va pouvoir trouver. Et je voudrais prendre quelques exemples avec vous des conseils que Dieu donne dans sa parole. Alors, une première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole sur la manière de procéder face aux épreuves ? Que faire face aux épreuves ? On va prendre un exemple dans la Bible. À l'époque de Joseph, on est à la fin de la Genèse. Joseph va annoncer à Pharaon qu'il va y avoir une grande famine en Égypte et dans le monde entier. Mais Dieu leur laisse 7 ans pour se préparer. C'est la voix de Joseph, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui pour s'adresser à Pharaon. Et dans ce contexte-là, Pharaon aurait pu compter sur ses conseillers. C'était quand même le roi d'Égypte. Il devait avoir de nombreux conseillers à sa disposition, de nombreux experts. Et puis, on le sait, les Égyptiens n'étaient pas spécialement attachés à l'Éternel. Ils avaient de nombreuses idoles. Pharaon aurait pu dire, telle idole ou telle idole va m'aider. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait ? Est-ce que vous vous rappelez ? On va le lire. Genèse chapitre 41, verset 38. Le pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Pharaon a choisi d'écouter le conseil de Dieu. Et il, pour appliquer ce conseil, il a établi un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu pour l'aider face à cette épreuve annoncée. En fait, il a pris vraiment au sérieux ce conseil de Dieu et il a mis en application ce que Dieu lui conseillait. Ainsi, si une épreuve est annoncée dans notre vie, ou si on est peut-être déjà dans l'épreuve, eh bien, écoutons les conseils de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette épreuve ? Et accepter que Dieu nous secourt, eh bien, ça passe bien souvent par l'obéissance à ses conseils. Alors, écoutons-les et mettons-les en pratique, ces conseils. Amen ? Un autre exemple de solution que Dieu donne. Que faire face aux relations amoureuses? C'est une question qui concerne les célibataires, mais pas seulement. Même quand on est en couple, quand on est marié, bah c'est une vraie question. Comment se comporter avec son conjoint? Comment entretenir la relation avec son conjoint? Et même au-delà de ça, avec les autres membres de la famille, les enfants, les grands-parents, les beaux-parents, et même tout autre être humain, avec comment est-ce qu'on va entretenir cette relation? Ce n'est pas évident de savoir quoi faire parfois. Mais Dieu donne de nombreux exemples, de nombreux conseils dans la Bible. Et ce matin, je voudrais prendre l'exemple de Ruth. Ruth, elle est dans une situation pas facile, parce qu'elle est veuve. Elle a sa belle-mère Naomi à charge. Elle est étrangère dans un pays qui se montre pas forcément toujours très amicaux avec ceux qui viennent de nations païennes. Et donc, c'est pas vraiment la situation idéale. Pourtant, vous connaissez certainement l'histoire par cœur. Ruth va déclarer à Naomi, au tout début de l'histoire encore, on est dans Ruth au chapitre 1, verset 16. Elle dit à sa belle-mère, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Ruth fait cette déclaration qu'elle veut suivre l'Éternel, qu'elle veut marcher avec Dieu, qu'elle veut suivre les conseils que Dieu lui donnera. Et Dieu va lui parler à plusieurs reprises au travers de la bouche de Naomi pour lui apporter les conseils appropriés. Et elle va écouter ses conseils. Jusqu'au moment où le cœur de Boaz, le fameux Boaz, sera si touché qu'il va dire ceci. Dans le chapitre 3 et verset 10, il dit « Sois béni de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Cette valeur, elle vient de l'obéissance à Dieu. Et la suite de l'histoire, c'est que Boaz va épouser Ruth, et que leur bébé va être le grand-père du roi David. C'était une décision tellement importante de la part de Ruth de choisir de s'attacher à Dieu. Ça conduit toute l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus, parce que c'est l'ancêtre de Jésus, en fin de compte, quand on regarde la généalogie. Écouter les conseils de Dieu, ça fait voir notre valeur aux yeux de ceux qui nous entourent. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit des relations amoureuses. Alors soyons à l'écoute des conseils de Dieu. Ce sont ces conseils qui nous conduiront dans des relations bénissantes. C'est par là qu'avait commencé Boaz. « Sois béni de l'Éternel », c'est la première phrase qu'il lui dit. Et les gens qui nous entourent, lorsque l'on fait la volonté de Dieu, vont pouvoir dire de nous « Sois béni de l'Éternel ». Peut-être qu'aujourd'hui, certains vivent des temps difficiles dans leur famille. Mais il n'est pas trop tard pour que Dieu intervienne. Soyons à l'écoute de ce qu'il nous dira afin de construire, et parfois de reconstruire, nos relations d'une manière qui honore Dieu. Amen. Prenons une troisième question. Qu'est-ce que Dieu dit de l'argent? Que faire face à l'argent? C'est une question importante dans notre société. Parce que quand on regarde autour de nous, quasiment tout nécessite que l'on ait de l'argent. Et donc on pourrait tenter de mettre un tas de stratégies en œuvre pour avoir plus d'argent, toujours plus d'argent. Mais bon, est-ce vraiment une solution? Jésus nous met en garde face à l'argent. Dans Matthieu chapitre 6 et verset 24, voici ce que Jésus nous dit. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En d'autres termes, si nous comptons sur notre argent pour nous aider, eh bien, tôt ou tard, on sera dans une impasse. Les conseils de Dieu, ça vaut tellement plus que l'argent. Dieu nous appelle à faire du royaume de Dieu notre priorité. C'est tellement plus important. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir quelque inquiétude. Oui, mais j'ai quand même besoin d'argent pour manger, pour boire, pour me loger, pour avoir des vêtements, sinon ben, il va faire froid cet hiver. Et il y en a qui le vivent, vraiment. Il n'y a qu'à voir à Toulouse, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais à Toulouse, il y a plus de 5000 sans-abri. C'est une des villes qui est le plus touchée par ce phénomène. Pourtant, qu'est-ce que Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 31 ? Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Lorsque l'on accepte de faire du royaume de Dieu notre priorité, ça veut dire que l'on laisse aussi Dieu s'occuper de nos affaires. Il s'occupe de nous. Ce conseil de Jésus est tellement précieux et ça change tout dans une vie. D'ailleurs, tous ceux qui ont suivi ce conseil peuvent en témoigner. Quand on a tout confié à Dieu, on vit des choses extraordinaires, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Des choses impossibles se produisent. Qui l'a déjà vécu? Ouais, beaucoup l'ont vécu. Un autre sujet, pas facile. C'est un sujet qui revient souvent dans les prières. Mais que faire face à la maladie? C'est aussi une grande question. Et la Bible nous rapporte de nombreux récits de guérison, de résurrection. Matthieu, dans son évangile, nous rappelle l'une des prophéties qui a été donnée 700 ans avant la venue de Jésus. Et cette prophétie, elle parle de Jésus lui-même. On est dans Matthieu 8 au verset 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Et plus loin, Jésus fera même cet appel. Au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu et au verset 18. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Amen. Alors faisons-lui confiance. Écoutons son conseil à propos de nos maladies et de nos souffrances. Nous pouvons venir à lui et les lui déposer, nous pouvons les lui confier. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on fait ça, Jésus nous accompagne dans nos épreuves. Il nous accompagne dans la maladie, dans la douleur, dans la souffrance. Ce n'est pas que physique, hein. C'est aussi, ça se passe parfois dans l'esprit, ça se passe dans l'âme. Et peut-être qu'on ne reçoit pas toujours la guérison physiquement parlant. Mais si c'est le cas, merci Seigneur. On peut être heureux quand Jésus nous guérit physiquement. Mais quoi qu'il arrive, nous recevons une guérison de l'âme. Nous recevons une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix que les autres ne peuvent pas expliquer parce que c'est Jésus qui la donne. Et cette paix nous permet d'affronter tous les événements. Parce que Jésus est là. Amen. Ainsi, soyons attentifs aux conseils de Dieu, car ces conseils sont infaillibles. Et plus nous recherchons son conseil, plus nous recherchons sa présence, plus notre oreille sera exercée à entendre sa voix. Voici l'un des conseils que Dieu donne à David, qui vient tout juste, de s'établir à Jérusalem et qui est attaqué par l'armée des Philistins. On est dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5 et au verset 24. C'est Dieu qui parle à David. « Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi. » Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David a appris à reconnaître le bruit des pas de Dieu. Waouh ! Entendre la voix de Dieu, c'est déjà extraordinaire. Mais entendre ses pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une telle proximité. Aspirons à ça, à avoir cette écoute au point de reconnaître. Dieu met sous toutes ses formes. Alors confions-nous vraiment à lui, quel que soit le domaine de nos vies, que cela concerne des épreuves présentes ou des épreuves à venir, que cela concerne nos relations avec les autres, nos relations familiales, nos relations de couple, que cela concerne l'argent ou la maladie, bien soyons à l'écoute des conseils de Dieu et mettons-les en pratique. Pour conclure ce message, Jésus annonce la venue du royaume de Dieu et il va donner un conseil. On retrouve ce passage dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 14. Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé ». Et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Quand on regarde ce que dit la société aujourd'hui face à ce type de déclaration, la société nous dit que ça fait 2000 ans que cette promesse elle est là et que rien ne s'est produit. Et la société nous dit de nous détendre. De nous reposer, de nous épanouir, de nous divertir. Mais Jésus dit ceci également, au chapitre, toujours dans Marc, au chapitre 13 et verset 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention. Jésus nous dit, faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Jésus nous met en garde à plusieurs reprises, que ce soit au travers de plusieurs paraboles ou de paroles beaucoup plus directes comme celles que l'on vient de lire. Ça va se produire. Le royaume de Dieu arrive. Jésus revient. Alors tenons-nous prêts pour ce moment. Les conseils de Dieu sont infaillibles. Prenons-les au sérieux. Amen. Seigneur Jésus, merci mon Dieu vraiment pour tes conseils. Aide-nous Seigneur à discerner parmi tous les conseils que nous recevons Seigneur. Ceux qui sont à écouter, ceux qui ne sont pas à écouter. Et surtout aide-nous à discerner ceux qui viennent de toi Seigneur. Car tes conseils sont des conseils infaillibles. Et c'est ce que nous voulons écouter, mettre en pratique dans nos vies, Seigneur éternel. Il y a tellement de situations où nous avons besoin de tes conseils, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prendre ton conseil dans tous les aspects de nos vies. Car, Seigneur, tu es notre Dieu et rien ne t'est caché. Tu sais toutes choses. Seigneur, viens nous parler et permets que nos oreilles soient attentives, attentives à ta voix. Attentive lorsque tu nous parles, Seigneur. Comme David l'était, aide-nous à apprendre à reconnaître ta voix, à reconnaître le son même de tes pas. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant toi encore ce matin, humblement, pour demander ton secours dans toutes les situations que nous vivons, Seigneur. Il y a des situations dans lesquelles on est, Seigneur, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Pardon. Interviens pour nous secourir. Aide-nous vraiment, Seigneur, à prendre chaque jour la mesure de tes conseils et à les mettre en pratique. Même si des fois ça peut défier notre logique, même si des fois ça peut nous sembler impossible. Aide-nous vraiment à suivre tes conseils en toutes circonstances, mon Dieu. Merci, Seigneur éternel. Tu es bon. Tu nous aimes. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître et de pouvoir compter sur toi, Seigneur. Amen.